cette première partie de la suite dans les idées depuis les jardins du Mons. Nous allons parler aujourd'hui de Next, Frau Plastic Chicken Show, une mise en scène d'Arpad Schilling, de Combat de nègres de chiens de Bernard-Marie Coltès dans une mise en scène de Jacques Nichet, et des premières rencontres nationales de la marionnette à la Chartreuse avec François Lazaro et Sylvie Boyon. Et nous. Frau Plastic Chicken Show, un texte de István Tasnádi, mise en scène de vous, Arpad Schilling. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous avez signé votre première mise en scène en 1994, vous aviez alors 20 ans, et l'année suivante, vous avez fondé votre compagnie qui s'appelle Crétacœur, je crois, est-ce que je prononce bien? Ça va? Qui signifie le cercle de craie, j'imagine que c'est un hommage à Brecht. Et d'ailleurs, vous avez monté dernièrement, juste avant Next, Ball de Bertolt Brecht, qu'on a pu voir à Strasbourg et à Paris. Alors, le cadre de votre dernier spectacle, c'est un show télévisé qui porte justement le nom de Next. Et cela se passe dans une salle, ici à Avignon, c'est l'usine Volponi, qui est transformée en studio de télé, avec une animatrice, l'animatrice de l'émission qui s'appelle Frau Plastic Chicken, et qui exhibe un invité spécial, l'invité spécial de la soirée, Alex, c'est un ancien hooligan repenti, pendant que sur un écran géant, on assiste en direct à la traque qui est suivie minute par un envoyé spécial de l'émission, la traque d'un serial killer, Rex Madison. Alors, ces deux personnages, Alex et Rex, ils viennent de deux romans très célèbres. Alex, c'est Orange Mécanique d'Anthony Burgess, et Rex, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis. Alors, comment vous avez pensé à réunir sur un plateau, le plateau d'un reality show, deux personnages parmi les plus violents de la littérature contemporaine? Est-ce que c'est votre idée? Est-ce que c'est l'idée de István Tasnádi?
Onnan indult ez a történet, hogy szerettem volna megcsinálni a bérmélancsot.
Donc au début, il avait l'envie de monter une version scénique de l'Orange Mécanique.
És megkerestem Tasnádi Istvánt, hogy írjunk egy darabot ebből.
Ils ont commencé à en parler avec le dramaturge István Tasnádi.
És ő azt mondta, hogy ez a regény már elavult önmagában.
Et il disait à l'écrivain que le roman Orange Mécanique en tout seul, ce n'est plus vraiment, c'est assez vieilli, ce n'est plus vraiment intéressant.
Ez egy klasszikussá vált.
Parce qu'il est devenu classique.
És ezáltal elvesztette már a hatását.
Et perdu un peu de son effet.
És hogy olvassam az amerikai pszichót, ami ugyanennek egy újfajta változata.
Et c'est lui qui lui a donné à lire le psychoaméricain, qui est considéré comme une suite de sur ce sujet.
Nagyon megtetszett, és azt mondtam, milyen érdekes lenne, hogyha ez a két főhős valahogy találkozhatna.
Il a beaucoup aimé le roman, et c'est lui qui a commencé à s'imaginer qu'est-ce qui se passerait si ces deux personnages se rencontraient sur un plateau.
Ez a két ember, illetve pontosabban, amit megtestesítenek a világból, ez mennyit változott az elmúlt 30 évben.
Parce que à travers ces deux personnages, on peut très bien capter combien le monde a changé en 30 ans.
És erre jött az az ötlete, hogy ahol ezek találkozhatnak ma, két ilyen híresség, ilyen regényhős, az csak is egy showműsor lehet.
Et après on s'est posé la question où peut-on se rencontrer deux personnages comme ça, et aujourd'hui c'est une évidence que ça ne se passe que sur le plateau d'un show télévisé.
Mondván, hogy általában ma már az emberek csak showműsorokban találkoznak.
Parce que c'est devenu un lieu de rencontre tout à fait quotidien.
Így állt össze a történet.
Donc c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Alors, ces deux personnages, Alex d'Orange Mécanique et Rex de American Psycho, pour vous représentent deux formes de violence? différente, puisque vous disiez que 30 ans séparent le premier roman du deuxième.
Azt gondolom, hogy a gépnarancsban még valamiféle lázadásról van szó, valami lázadást fogalmaz meg Alex személye, az amerikai pszichóban pedig valahogy a nihilnek, a tét nélküliségnek, az önmagából kifordult világnak a terméke, és szándékosan használom ezt a szót, hogy egy terméke az a Rex Madison, és hát ez óriási különbség.
Dans l'univers de l'Orange Mécanique, Alex, il symbolise encore une sorte de révolte, donc il s'en sert de la violence pour se révolter contre le système, tandis que dans la psycho, Rex Madison, il n'a plus qu'un produit d'un, et c'est le mot qu'il voudrait souligner, le produit d'un monde assez vidé de sens et d'enjeu où le néant règne.
És ez nagyon fontos, hogy az egyiket, Alexet nem fogadja el a társadalom, és Rex Madison pedig elfogadja a társadalom.
Et Alex en tant que révolté, il est rejeté par la société, et Rex qui représente ce néant est complètement accepté par la société.
Tehát az ami igazán változott, az ami körbeveszi az erőszakot, az a világ, ami körbeveszi az erőszakos.
Donc ce qui a vraiment changé, c'est l'entourage, c'est le rapport de l'autrui envers la violence.
Hogy a gépnarancsban még ugye nincs arról szó, hogy esetleg hőssé válhasson egy ilyen, tehát a társadalom szemében hőssé válhasson egy ilyen figura, és az nagyon érdekes, hogy a Rex Madisonnál már egy szupersztárról beszélünk.
Dans l'Orange Mécanique, il n'y a pas question que Alex devienne un star ou un symbole pour la société, alors que dans l'autre roman, on a tendance à regarder à Rex comme un symbole, comme un superstar de notre époque.
Alors, au moment de leur sortie, ces deux romans ont suscité beaucoup de controverses. On a notamment accusé et Anthony Burgess et Bret Easton Ellis d'utiliser une forme de violence gratuite. Est-ce que votre spectacle, lorsqu'il a été montré à Budapest, je ne sais pas si c'était l'année dernière, est-ce qu'il a suscité aussi des polémiques?
Igen, egyrésztről ezt a reakciót váltotta ki, és volt az ellenállók között olyan is, akik ennél sokkal primitívebb szinten álltak be.
D'une part, on a été accusé de l'utilisation de la violence, comme vous avez dit, gratuitement, mais il y avait des remarques encore plus dures et encore plus repoussantes que celui-ci.
Quel genre de remarque?
Mien réaction.
Hát, hogy sokba kerül ez az előadás.
Par exemple, tout simplement, ils ont dit que c'est une production qui coûte beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elle donne.
Nyugatra készül.
Que c'est une production faite exprès pour le marché international.
És hogy, hát itt szinte az ország ellen való árulás.
Et que c'est un spectacle qui trahit le pays.
És hát, hogy ugyanarról szól, amit, és ez volt a fontos, hogy ugyanarról szól, amit ábrázol.
Et qu'il ne fait que reproduire ce qu'il veut dénoncer.
Tehát nem vették le az iróniát, és ezért úgy kezelték, mint hogyha mit csináltunk volna egy showműsor.
Donc beaucoup n'ont pas capté l'ironie et le sens critique du spectacle, et ils ont considéré comme si on reproduisait un show.
Oui, parce que vous dites dans une note d'intention, le spectacle, donc ce show télévisé grotesque, voudrait apporter un éclairage passablement ironique sur un problème parmi les plus actuels de notre époque, c'est-à-dire le problème de la violence, mais aussi le problème de la manipulation.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'il pense.
És nagyon-nagyon fontos az, hogy az irónia, tehát ezt folyamatosan hangsúlyozom, hogy ez egy játék, és ez nem egy önmagáért való játék.
Et on insiste là-dessus que c'est un jeu, et c'est un jeu, ce n'est pas un jeu gratuit.
És amikor elhangzik az előadásban az a bizonyos dal, amit Puskás Attila énekel, és azt mondja, hogy Magyarország jövőjéről szól, akkor nem csak az a dal szól Magyarország jövőjéről, hanem az én félelmemről, hogy ez az egész előadás, amiről szól, ez Magyarország jövője.
Et quand il y a cette chanson chanté par Attila Puskas dans la pièce, et quand il dit, et en fait c'est du blabla, les paroles n'existent pas, et quand Chicken lui pose la question de quoi part cette chanson, et il répond, ça part de la nouvelle Hongrie, ça part du futur hongrois, c'est dans cela il y a tout notre peur que ce spectacle parle de notre futur, et on doit faire face à ça quand on pense à ce qui va nous arriver.
Alors quand on voit ce spectacle, on est frappé d'emblée par le fait que lorsque le public entre dans la salle, donc l'usine Volponi ici, mais le public qui vient assister à une pièce de théâtre, eh bien ce public se comporte exactement comme un public de show télévisé, c'est-à-dire qu'il répond immédiatement aux sollicitations d'une sorte de monsieur loyal, de présentateur, qui les incite à applaudir à différents moments, etc. Et est-ce que ce n'est pas cet aspect-là, cette sorte de perversion qu'on a pu vous reprocher, de manipuler le public qui vient voir votre pièce au point qu'il se comporte immédiatement non pas comme s'il était dans une salle de théâtre, mais dans un studio de télé.
Ez egy kísérlet.
C'est une expérience.
Tehát mi kerestünk valamit, amire ezt a választ hoztuk.
On était à la recherche d'un phénomène, et c'est notre réponse, ou c'est la solution qu'on a pu trouver.
És feltételeztük a nézőkről, és feltételezzük a nézőkről, hogy miután kijönnek az előadásról, akkor értelmezik azt.
Et on suppose que les spectateurs, une fois sortis du spectacle, se posent les questions ou essaient de comprendre ce qu'ils ont vécu.
És az, hogy együtt megyek egy dologgal, az nem biztos, hogy amiről az szól, azzal egyet is értek, csak azokkal, akik csinálják.
Et il faut pas confondre que si je me laisse emballer dans un jeu, ou si je perds dans un jeu, c'est pas forcément que je suis d'accord avec le jeu ou que j'aime bien y participer. Ça peut être aussi que je comprends le message, je comprends le jeu, et je suis d'accord avec ceux qui le mènent.
És én túlságosan kényelmes helyzetnek éreztem azt, hogy a néző gyakorlatilag hátulról nézze ezt a show műsort.
Et ça aurait été beaucoup trop confortable pour les spectateurs de ne faire que regarder presque de derrière ce spectacle.
Vegyen részt benne akkor is, hogyha egyébként nem venne részt egy ilyen show műsorban.
Et on voulait qu'il participe, même s'il n'avait jamais eu l'idée d'aller assister à un vrai show.
És ez nagyon fontos, hogy itt nem csak egy show műsorról van szó, hanem egyfajta működésről, ahogyan működik a világ.
Ici, c'est même pas l'aspect du show qui est intéressant, mais c'est l'aspect c'est surtout le fonctionnement, le mécanisme de comment notre monde, largement influencé par les médias, marche.
És ahogyan azt feltételezzük magunkról, hogy mi sokkal értelmesebbek vagyunk, és nem veszünk részt ilyenekben, hogy elgondolkoztasson esetleg ez az előadás arról, hogy talán már réges-rég a részesei vagyunk egy ilyen játéknak.
Et nous, soi-disant les artistes ou les intellectuels, on a toujours tendance à dire que nous, ça nous touche pas, on n'y participe pas, c'est très très loin de nous, et peut-être un spectacle comme ça, les réactions que ça provoque chez nous, peut nous dire qu'en fait non, on n'est pas si loin de ça. Donc on n'est pas vraiment loin de ça, et peut-être même on a déjà manipulé, on a amené dedans.
Mais alors justement, est-ce que le fait de coller de si près à la réalité d'un show télévisé, dans une sorte de mimétisme parodique, certes, avec des traits hyperboliques, mais de coller de si près à cette réalité-là n'empêche pas un travail critique de la part du public?
Én azt gondolom, hogy én azért használtam ezt a kifejezést, hogy groteszk, tehát ami a valóságnak egy pici eltúlzása vagy elferdítése. Én inkább erről beszélnék, hiszen azért ilyen showműsor, vagy olyan típusú showműsor, amiben női bíborosok gyóntatják a sorozatgyilkost, ez azért még nem valóság, bár egyre közelítünk felé. Én azt gondolom, hogy ez egy groteszk játék, épp hogy fölnagyítja a dolgokat, és könnyebbé teszi a felismerésüket.
Il considère que c'est un jeu grotesque, et le grotesque, il fait exagérer et faire agrandir les effets, parce que quand même, on n'assiste pas souvent à des shows où des cardinales femmes
donnent
la solution à des serial killers. Donc, on n'y a pas encore, on y approche, mais on n'y a pas encore. Donc, on a quand même, en tant que spectateur, une possibilité de capter cette distance et réfléchir là-dessus.
És ami igazán fontos, és ez működött Magyarországon, hogy az előadás legyen gyakorlatilag egy felkiáltójel, aminek kapcsán egy adott problémáról lehet beszélni. Tehát nem az a legfontosabb, hogy ez az előadás bomba siker legyen, hanem az a legfontosabb, hogy minél több ember beszéljen erről az adott problémáról, és otthon ilyen közönségtalálkozót szerveztünk, ami nagyon jól működött.
Et notre intérêt avant tout, et ça a assez bien marché chez nous, c'est que le spectacle fonctionne comme un point d'exclamation. Et même si ça ne fait pas un énorme succès ou un succès unanime, certainement ça ne fait pas, mais que ça fonctionne en tant qu'un point d'exclamation et que ça suscite des débats. On a fait plusieurs rencontres chez nous où les gens pouvaient venir et vraiment donner leurs avis très contradictoires et parfois vraiment très... très négatif sur le spectacle et on en est d'accord parce que ça fait pour.
Alors comment, quel sens vous donnez à la fin de ce spectacle, c'est-à-dire au moment où Alex et Rex, donc l'hooligan repenti mais qui est poussé à nouveau à la violence par la manipulation de Frau Plastic Chicken et qui est amené à revivre des moments de son passé, et puis de l'autre côté Rex, donc le serial killer, à la fin, ils partent tous les deux après avoir menacé et terrorisé tous les gens qui sont sur le plateau et les spectateurs, ils s'en vont en hélicoptère.
Hát számomra az mindenképpen fontos volt, hogy ebből ők kikerüljenek, ebből a műsorból.
L'important c'était avant tout qu'ils se tirent de ce cadre de l'émission.
És mint egy ilyen, szinte mint egy felkiáltó jel, ott a szemünk előtt ugye felszállnak erre a helikopter, és úgy repülnek bele a világba.
Et c'est aussi sorte de point d'exclamation, de les voir s'envoler dans le grand néant avec ce hélicoptère.
Az otthonaink felé.
Vers nos maisons, peut-être.
Mert nem lehet tudni, hogy hol szállnak le.
Parce qu'on ne peut pas savoir où ils vont débarquer pour la prochaine fois.
És hát gyakorlatilag két szörnyé válnak, az egyiknek kilugozzák az agyát, tehát gyakorlatilag bármit megmert tenni, a másik pedig már eleve is ilyen volt.
Et en fait, on a affaire à deux monstres dont l'un a un cerveau complètement délavé et on a vu le processus devant nous et l'autre, il est comme ça, il est un monstre d'origine.
És azt láthattuk, hogy ez a műsor és ez az egész felhajtás nem arról szólt, hogy semlegesítse ezeket a figurákat, hanem épp, hogy sztárrá tegye.
Et on a vu qu'on a assisté à une émission qui ne servait pas à les calmer ou à qui n'a pas aidé à la société de se débarrasser d'eux, mais juste au contraire de les rendre encore plus célèbres et encore plus connus.
Hiszen O.J. Simpson is járkál az utcákon, pedig hát úgy tűnt, hogy mégiscsak bűnös és mégiscsak ölt.
Et comme O.J. Simpson se promène tranquillement dans les rues aujourd'hui, pourtant on avait l'impression qu'il a accompli des crimes.
Ez egyfajta vélemény.
Donc c'est une sorte d'opinion de notre part.
És van egy másik oldala is a dolognak, hogy mégiscsak Rex Madison volt az, aki ezt az egész borzalmat, amit ez a chicken vezetett, leállította.
Et en même temps, on peut être embarrassé parce que c'était quand même Rex Madison qui a arrêté tout cette horreur de show célébré par Chicken.
Tehát ez a kettősség az érdekes számomra.
Donc il y a quand même un double sens, une tension qui peut être intéressant ou qui l'intéresse.
Hiszen ott van ez a két ember, aki közül az egyik volt az egyetlen, akivel lehetett azonosulni, ez az Alex.
Car il y a deux hommes dont Alex était celui avec qui on pouvait sentir quelque chose en commun.
Hiszen olyan volt, mintha minket tettek volna tönkre.
Parce qu'il nous ressemblait beaucoup, il ressemblait beaucoup aux spectateurs au début. Il vient sur le plateau de parmi les spectateurs.
És ott van egy másik, akivel egyáltalán nem lehet azonosulni.
Et on a l'autre à qui on trouve aucun point d'attache.
Mindez együtt.
et les deux se mettent ensemble.
Amiket eddig mondtam, tehát egy olyan bonyolult képet akartam megfogalmazni, amiben ez az eldönthetetlenség fogalmazódik meg.
Et c'est une image assez complexe pour qu'on ne puisse pas s'y retrouver facilement.
Oui, elle est tellement complexe, elle est même ambiguë, je dirais, parce que à la fin, puisque c'est un serial killer finalement qui nous libère de l'horreur d'un spectacle comme celui auquel on a assisté.
De pont ez az érdekes. Pont ez az érdekes szerintem ma.
Mais justement, c'est ça qui peut être intéressant aujourd'hui.
Én azt gondolom a mai világról, hogy pont ennyire összetett és ennyire kiszámíthatatlan.
Justement, on voit notre monde aujourd'hui si surprenant et si incalculable.
Amit én ma megélek otthon, az egy teljes zavar.
Ce qu'on revit chez nous aujourd'hui, c'est une ambiguïté complexe.
Az emberek nem tudnak dönteni, nincsen belső értékrendjük, elveszített.
Les gens ont du mal à se positionner, à se décider, il nous manque des points de repère.
Ez gyakorlatilag a kenyér kiválasztásától a boltban egészen a politikai választásokig érvényes.
Qui va du magasin quel pain choisir jusqu'aux élections quel parti choisir.
Ezt a zavarodottságot szerettem volna ebben megfogalmazni.
Donc on vit dans une sorte d'embarras et c'est de ce monde-là qu'on voulait parler dans le spectacle.
Számomra az volt az érdekes, amikor egy néző azt mondja ki, hogy én egyértelműbb üzeneteket és egyértelműbb dolgokat szeretnék az életemben, és talán elgondolkozik rajta, hogy hol kap még ilyen egyértelmű üzeneteket a színházon kívül, ami számomra így el is veszti az értelmét, mert nem reagál a világra, amiben már nincsenek egyértelmű üzenetek.
Pour nous, la réaction adéquate de spectateur est telle quand quelqu'un nous venait voir en disant « Je veux des réponses plus claires, je veux des solutions plus claires du théâtre. » Et alors on dit, mais justement, si le théâtre aujourd'hui est capable de donner des réponses claires, c'est qu'il a détaché de la réalité, parce qu'il n'y en a plus.
Pate Gaspard, vous nous servez d'interprète, mais vous êtes également et surtout directeur de la compagnie Créteil-Cœur. Comment travaillez-vous? Dans quelles conditions? Nous avons reçu ici Laszlo Udi, metteur en scène hongrois, qui nous parlait de ses difficultés. Est-ce que pour vous, les choses se passent plus facilement?
Pas vraiment, non. On a vraiment dans la même situation, en tant que compagnie indépendante, c'est-à-dire jeune compagnie formée des comédiens freelance, donc qui n'appartenaient pas aux autres compagnies, parce que comme chez nous, les grands théâtres institutionnels ont toujours une compagnie permanente et jouent un répertoire, et ils ont les grandes maisons. Alors, ceux qui sont dehors de cette structure doivent vraiment se battre pour avoir un lieu et pour avoir des moyens. Donc, grâce au travail quand même assez dur qu'on mène depuis 2-3 ans, et grâce à cette saison, par exemple, on a monté 3 spectacles, donc on a déjà fait 2 spectacles après Next, et comme le public et le métier reconnaît la qualité de notre travail, on avance quand même. Donc, je ne voudrais surtout pas me plaindre ici à Avignon, parce que c'est un vrai miracle pour nous d'être arrivés jusqu'ici. Et beaucoup de compagnies hongroises ne sont jamais venues et ne viendront jamais, qui sont beaucoup plus connues que nous. Mais c'est vrai que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit Laszlo, mais aujourd'hui, pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir donner un salaire minimum pour nos 20 collaborateurs, on dépend de l'étranger, on dépend de nos partenaires, des coproducteurs, et c'est grâce à ces supports, et c'est grâce à ces occasions des festivals et des invitations qu'on arrive à survivre, sans savoir ce qui va nous arriver, disons, à janvier prochain.
Pas de projet, alors?
Si. Si, on sait les 4 spectacles qu'on va monter jusqu'à la rentrée 2002, ça, ouais, donc jusqu'à octobre prochain. Donc on sait, on a fait les contrats avec les participants, on est à la recherche des coproducteurs, on a trouvé quelques-uns, mais rien n'est assuré. Ce qu'on sait maintenant, c'est que notre prochain spectacle va être Wojtek de Büchner, parce que c'est aussi caractéristique pour la compagnie et c'est aussi dans le style de d'Arpad qu'on fait toujours, on fait jamais deux spectacles qui se ressemblent. Donc après Next, on a déjà créé deux spectacles très différents et on va revenir avec Wojtek qui est un peu plus dans la lignée de Bâle. Donc ça, on va présenter au mois de septembre. Et ensuite, on fera les deux autres spectacles de Büchner jusqu'au septembre 2002.
Merci Mathé Gaspard, merci Arpad Schilling pour Next Franc Plastic Chicken Show. Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès, mise en scène de Jacques Nichet. Jacques Nichet, vous avez déjà monté en 95 Le Retour au désert et vous revenez cette année à Coltès avec Combat de nègres et de chiens. Alors, est-ce qu'il y a une continuité dans le choix que vous avez fait de ces deux pièces dans tout le répertoire de Coltès?
Oui, bien sûr, puisque c'est le même poète et on retrouve les éléments poétiques de cette dramaturgie très étrange. Peut-être y a-t-il plus de désir de comédie dans Retour au désert qu'il y en a dans Combat de nègres et de chiens, mais en même temps, cette première pièce ne manque pas d'humour et c'est cela qui a frappé les spectateurs, c'est de voir comment Coltès aimait rire. Mme Boyer, qui l'a bien connu, disait que c'était un homme qui éclatait très souvent de rire, qui avait un rire extraordinairement vivant. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas de Coltès l'image d'un homme souriant et aimant la comédie, aimant rire.
Alors, c'est une pièce qui se situe en Afrique, qui était inspirée d'ailleurs par un voyage au Nigeria, je crois, en
Oui,
79.
en 78, je crois, ou 79, il est allé au Nigeria et il est allé rejoindre des amis qui étaient sur un chantier. Perdu, entouré de miradors, et les gardes qui entouraient la cité des Blancs, en quelque sorte, criaient toute la nuit pour ne pas s'endormir, pour marquer les temps de veille, des appels, et il a été très frappé par ces cris insolites dans la nuit, et ça a été le départ de l'écriture de cette œuvre.
Alors, l'Afrique, les personnages du noir, ce sont des thèmes, des moments qui reviennent dans les pièces de Coltès. Et pourtant, à propos justement de Combat de nègres et de chiens, Coltès, il écrivait: Cette pièce ne parle pas de l'Afrique et des noirs. Je ne suis pas un auteur africain. Elle ne raconte ni le néocolonialisme, ni la question raciale.
Oui, parce que dans les carnets, qui sont des carnets qui préparent l'écriture de Combat de nègres et de chiens, qui sont édités à la suite du texte, nous découvrons finalement les carnets d'un voyageur. Il nous parle d'une Afrique, disons, pittoresque, avec beaucoup d'Africains dans les marchés, dans les rues. Vous savez, quand on va en Afrique, on est frappé par la population, et en particulier le nombre d'enfants. Alors là, c'est une Afrique où les Africains ont disparu. Il n'y a qu'un seul Africain, et cet Africain a un statut étrange, il sort de la nuit, c'est un être de la nuit, et il vient réclamer un corps, le corps de son frère, et très vite, si on regarde de très près le texte, on s'aperçoit que cet Africain est en fait un fantôme qui vient réclamer peut-être, c'est peut-être la propre âme du décédé qui vient réclamer le corps, comme pour refaire une unité, ou bien c'est un frère jumeau, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de mythes sur la gémellité, ou bien c'est un frère jumeau qui vient réclamer son autre frère, ou bien c'est un esprit de la forêt qui vient, on ne sait pas. Donc on est plus dans l'univers du conte fantastique. Vous voyez, une Afrique sans Africain, et le seul qui arrive, c'est un fantôme. C'est ça qui m'a frappé. C'est comment Coltès est finalement notre griot, notre conteur. Il sait nous raconter des histoires, il sait nous faire rire, il sait nous faire peur. Exactement, il a le sens africain. Il n'est pas un auteur africain, mais il a le sens du récit africain. C'est un griot.
Oui, donc il est plutôt, selon vous, dans une posture donc de griot, de conteur, que de militant. Vous, je crois que vous n'avez
Oui.
pas voulu mettre en avant, et d'ailleurs Coltès peut-être ne le fait pas non plus, le côté plus directement politique de cette
Oui,
pièce,
il y a bien
qui est
sûr,
pourtant là.
bien sûr, il était à ce moment-là au Parti communiste, comme Hubert Geniou, son maître de Strasbourg. il a un point de vue politique à cette époque-là, qu'il va abandonner. Et on a l'impression que pour lui, le monde n'est pas transformable, qu'il y a une sorte de fatalité qui pèse sur les êtres qui sont condamnés, ou bien qui ne sont pas condamnés. Les gens riches de l'Occident ne sont pas condamnés, et les gens pauvres du tiers-monde sont condamnés, et toute sa vie va se rapprocher, et politiquement et politiquement, mais sans s'engager dans un parti, des condamnés, c'est-à-dire des Noirs d'Afrique, des Arabes de Paris, s'il va dans un café, c'est dans un café arabe à Paris, des Indiens d'Amérique latine, etc. Donc il est d'une certaine manière quelqu'un qui comprend l'importance du tiers-monde, mais il ne traduit pas cela dans un message politique comme Aimé Césaire a pu le faire, ou comme des auteurs du tiers-monde ont pu le faire. Non, il constate l'existence humaine divisée, séparée, irrémédiablement séparée. Il y a des fossés entre les êtres. C'est ça qu'il met en scène.
Oui, des êtres condamnés, des êtres déplacés, voilà. Déracinés.
Exilés, voilà.
Exilés. Voilà. Et vous le disiez tout à l'heure, la pièce est très loin de tout exotisme africain. Elle se passe dans un des villages donc des entreprises françaises dans ce pays, au Nigeria. Et c'est un huis clos, en réalité.
Voilà.
C'est un huis clos, c'est comme ces autres lieux de Coltès, un lieu de transit ou un non-lieu finalement. Est-ce que c'est ça l'Afrique de Coltès?
C'est un huis clos enfermé dans une nuit, parce qu'il y a unité de temps, unité de lieu finalement, et unité d'action on peut dire. C'est une pièce classique, enfermée dans une nuit qui est le personnage principal. Et ce sont les êtres qui sont dans la nuit, et la nuit c'est aussi la solitude, la rencontre avec les esprits, la rencontre avec les fantômes. C'est comme ça que j'entends la pièce, on peut peut-être voir ça tout à fait autrement. Hein. Mais ce qui quand même me frappe, c'est que Léone, c'est la seule femme dans cette pièce d'homme.
Femme blanche,
qui vient rejoindre un couple, le mari, mais le mari a été blessé, il est impuissant, donc Marie, l'amant si on veut, Cal. Et puis elle va rencontrer le troisième.
Albury,
c'est-à-dire dans le théâtre de boulevard, il n'y a que deux hommes et la femme. Là, tout d'un coup, il y a un tiers homme, du tiers monde, justement, qui arrive, en plus un fantôme, et c'est cette rencontre qu'elle va faire. C'est la rencontre, mais mythique, qui n'a rien, ce n'est pas du tout une touriste qui voit un indigène, c'est quelqu'un qui, dans la forêt, près d'un arbre, et l'arbre a une grande importance, c'est l'arbre des contes, rencontre un être. Et tout d'un coup, elle croit l'avoir déjà vu, et tout d'un coup, elle comprend qu'elle a déjà vécu dans ce pays où elle n'est jamais allée. Donc c'est vraiment une pièce de la métampsychose, où quelqu'un découvre qu'il fait partie d'un territoire qu'il ne connaît pas. Et d'une certaine manière, on comprend, à ce moment-là, et dans cette scène particulière, que Coltès nous raconte cette conversion qu'il a eue par rapport au tiers-monde, par rapport à l'Afrique, là, en l'occurrence, où il s'est dit, finalement, je suis plus africain, sans être un auteur africain. Je suis quand même brûlé de l'intérieur, je me sens plus proche des Africains que des Français de Paris. Et d'une certaine manière, il va choisir son camp, mais, encore une fois, par une conversion poétique, presque, ou métaphysique, je ne sais pas, de la métapsychose, il croit... je peux vous lire la scène, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse d'entendre la scène où Léone dit qu'elle a vécu dans ce territoire-là. Est-ce que vous voulez entendre des mots de Coltès? Parce que c'est bien que Coltès parle lui-même, finalement. Voilà la scène. Je vais sauter les textes en allemand, parce que je lirai très mal, mais on comprend bien l'essentiel. Donc Léone arrive et elle découvre. Voilà le conteur qui parle. Le vent soulève une poussière rouge. Léon voit quelqu'un sous le bougainvillé, dans des chuchotements et des souffles, dans des claquements d'ailes qui la contournent. Elle reconnaît son nom, puis elle sent la douleur d'une marque tribale gravée dans ses joues. L'armatan vent de sable la porte au pied de l'arbre. Voilà une didascalie, voilà une indication scénique. Comment voulez-vous que le metteur en scène fasse souffler un vent qui porte une actrice au pied d'un arbre? Il faudrait des gros ventilateurs. Donc, je crois que simplement, il nous dit, attention, je ne fais pas tout à fait du théâtre, je suis en train de vous raconter un conte extraordinaire. Écoutez-le. Et en effet, Léon s'approchant d'Albori, je cherche de l'eau. Vasser, bitte, vous comprenez l'allemand? Moi, c'est la seule langue étrangère que je connaisse un peu. Vous savez, ma mère était allemande, véritablement allemande, de pure origine, et mon père alsacien, alors moi dans tout cela. Elle s'approche de l'arbre. Ils doivent me chercher. Elle regarde Albori. Il m'avait pourtant dit que, doucement, dich erken ich sicher, elle regarde autour d'elle. C'est quand j'ai vu les fleurs que j'ai tout reconnu. J'ai reconnu ces fleurs dont je ne sais pas le nom. Mais elles pendaient comme cela aux branches, dans ma tête. Et toutes les couleurs, je les avais déjà dans ma tête. Vous croyez aux vies antérieures, vous? Elle le regarde. Pourquoi m'a-t-il dit qu'il n'y avait personne, sauf eux? Agité. J'y crois, moi, j'y crois. Des moments si heureux, très heureux, qui me reviennent de si loin, très doux. Tout cela doit être très vieux. Moi, j'y crois. Je connais un lac au bord duquel j'ai passé une vie, déjà, et cela me revient souvent dans la tête. Cela, elle montre les fleurs, on ne trouve pas ailleurs que dans les pays chauds, n'est-ce pas? Or, je les ai reconnues, venant de très loin, et je cherche le reste, l'eau tiède du lac, les moments heureux. J'ai été enterré sous une petite pierre jaune, quelque part, sous des fleurs semblables. Donc vous avez là l'exemple vraiment du projet, à mon avis, de Koltès, où Léone se retrouve elle-même, retrouve son identité perdue, en tant qu'elle n'est plus blanche, elle est noire, et elle est de ce continent-là, et elle a déjà vécu une vie là. Voilà. On est vraiment dans un conte fantastique, et c'est ça qui donne l'ampleur de cette écriture, qui n'est pas limitée aux politiques, même si, bien entendu, il est attentif à la décolonisation, et il voit comment la décolonisation a recréé l'exploitation des Noirs, il voit comment on fait des routes inutiles, comment on gaspille l'argent. Il nous montre bien la décolonisation terrible de l'Afrique et comment on a laissé ce continent à l'abandon. Mais ce volet politique n'exclut pas du tout ce volet métaphysique. Et c'est pour ça que Koltès est un auteur étrange, car on ne sait pas par quelle porte entrer dans lui. Et toutes ces portes communiquent et nous font tomber dans un labyrinthe.
Alors, aujourd'hui, Bernard-Marie Koltès est devenu un classique.
Tout à fait, oui.
Très joué partout dans le monde, pas seulement en France. On peut rappeler qu'il avait commencé à écrire et à monter ses premières pièces au début des années 70, qu'il a fondé sa propre compagnie. Et en 83, Patrick Chéreau, qui dirigeait alors le théâtre nanterre Les Amandiers, il a ouvert ce théâtre avec justement une représentation de combats de nègres et de chiens d'un auteur inconnu à l'époque. Alors, son œuvre, l'œuvre de Koltès, s'est imposée, non sans mal d'ailleurs, mais enfin aujourd'hui, Koltès est devenu, comme je le disais tout à l'heure, un auteur classique. Alors, à vos yeux, quel est l'impact, l'imprise de l'œuvre de Koltès sur l'écriture dramaturgique contemporaine?
Oui, je voudrais, puisque vous parlez de Patrick Chéreau, dire que nous sommes tous jaloux de Patrick Chéreau, qui a eu finalement, sur cet dernier tiers du siècle, le XXe siècle, la chance et le courage en même temps, parce que c'était, il fallait du courage, pour monter un auteur inconnu et le soutenir malgré quelques réticences du public. Kay West n'a pas bien marché, etc. Et Patrick Chéreau a tenu contre vent et marée et d'une certaine manière a senti l'importance de l'écriture.
C'était donc, d'ailleurs un compagnonnage assez rare,
oui,
enfin, mettant en scène un auteur.
C'est vrai qu'il y a quelques exemples comme ça, ils ne sont pas si fréquents et ça fait plaisir. Il y en a d'autres, hein, Beckett et Blin ou Giraudoux et Jouvet, mais effectivement, ça, c'est la grandeur de Chéreau de l'avoir fait, il faut le remercier. Alors, l'auteur classique, oui, parce que d'une certaine manière, il essaie de rivaliser avec les classiques, tout en ne s'enfermant pas dans le modèle classique. C'est vrai que là, il va avoir deux modèles, d'une certaine manière, le modèle classique, avec l'unité de temps dont je parlais, de lieu, d'action, le modèle shakespearien, qu'on voit beaucoup plus dans Retour au désert. Il a plusieurs. Et le modèle grec, le modèle du dialogue grec ancien ou du 18e avec Dans la solitude des champs de coton, enfin, il y a, qui est un des chefs-d'œuvre de la fin de ce siècle, vraiment. Donc on a là une écriture, on a vraiment un écrivain qui a passé sa vie à se défendre de la pauvreté, parce qu'il était très pauvre, il ne faisait pas de stage, il ne faisait pas d'accompagnement, il voulait vraiment écrire, et d'une certaine manière, on a vraiment un écrivain parce qu'il a passé sa vie à écrire. Et il a défendu, parce qu'on lui proposait d'autres métiers pour essayer de... Non, il disait, je suis écrivain. Donc on a vraiment là l'exemple d'un homme qui s'est mis en écriture, au dépend, je dirais, de sa vie, de sa... C'était sa vie, mais au dépend de sa vie matérielle. Hein, quoique, c'était sa vie et il s'est imposé. Alors pourquoi? Parce qu'il échappe, il est lui-même, il échappe à des modèles. Chaque scène est très étrange parce qu'une fois qu'on a mis en scène, une scène, on n'est pas sûr de l'avoir comprise. Il y a comme des choses, comme s'il affirmait quelque chose et le retirait. On a l'impression chaque fois qu'il nous ouvre une trappe sous les pieds et que ce qu'on croyait être la scène n'est pas tout à fait la scène. En ce sens, c'est un homme de théâtre, parce que chacun va pouvoir, justement devant ses trous, devant ses failles, devant ses contradictions, mais volontaires, hein, ce n'est pas du tout des contradictions, si vous voulez, ça a du jeu, le mécanisme a du jeu. C'est écrit, ça frotte. Ouais. Quoi.
C'est peut-être pour cela que Patrick Chéreau a repris à je ne sais plus combien d'années d'écart la solitude.
Oui, il l'a monté trois fois parce qu'il n'arrivait pas justement au bout de... C'est magnifique ça aussi. Et je crois qu'en effet, c'est un auteur dont l'écriture a du jeu, c'est-à-dire elle est mal jointée. Et étant mal jointée et étant sur à la voix un niveau psychologique...
Elle travaille comme
l'auteur. Voilà, elle travaille comme du bois. Elle est à un niveau psychologique, à un niveau politique, à un niveau métaphysique. Ces trois niveaux se joignent, s'imbriquent, se défont, ce qui fait qu'on est devant un château de cartes qu'il faut stabiliser et qui est instable. Voilà. Et c'est pour ça que les comédiens aussi se régalent, parce qu'ils ont matière à jeu, à changer de perspective. Voilà. En ce sens, c'est un très grand dramaturge. Et il ne se démodera pas, je ne crois pas, parce que je ne dis pas que toutes les pièces se valent, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il y a une écriture réelle. Il y a une écriture, mais en même temps, il y a des pièces. Parce que quelquefois, on parle des écritures contemporaines. Oui, d'accord, il y a des écritures, mais l'écriture ne suffit pas, il faut la pièce. Et il y a une pièce faite de pièces et de morceaux, voilà. Donc, en ce sens, il est profondément moderne, parce qu'il a l'art du montage. Vous savez, par exemple, de Combat de nègres et de chiens, il a coupé la moitié de son texte. Et lorsqu'il... parce que c'est un effet de montage. Il avait écrit beaucoup plus, beaucoup plus. Et ensuite, lorsqu'il allait voir des représentations de Combat de nègres et de chiens par des jeunes troupes, il leur disait « Pourquoi vous n'avez pas coupé ça ? Pourquoi vous n'avez pas coupé ça ?» Ce qui l'intéressait, c'était justement qu'en fonction de l'équipe, on continue le travail de bricolage, de montage, de collage,
délagage
et qu'il fallait continuer à vivre le texte avec lui à travers sa poésie.
Merci Jacques Nichet pour Combat de nègres et de chiens de Bernard-Marie Coltès. Ça se joue jusqu'au
28 juillet compris.
Merci.
Au théâtre municipal.
Rencontre nationale de la marionnette à la Chartreuse jusqu'au 29 juillet. Première édition de ces rencontres organisées à la fois par Théma, Sylvie Boyon.
Bayon.
Sylvie Bayon, Théma. Si on décrypte,
ça, c'est Association des théâtres de marionnettes et arts associés.
Et en même temps, par le Centre national d'écriture du spectacle. Et donc, c'est un nouveau rendez-vous, une occasion de rencontre à la fois pour les artistes et les professionnels du spectacle et puis les auteurs contemporains dans un domaine théâtral très particulier, un peu en marge. Je ne sais pas si François Lazaro sera d'accord pour... dire que le théâtre de marionnettes, d'ailleurs théâtre de marionnettes, en fait, c'est une étiquette qui englobe beaucoup de pratiques différentes.
Oui, quand on parle de marionnettes, évidemment, il y a une multitude d'images toutes faites qui viennent, qui concernent les enfants, qui concernent un théâtre peut-être de jardin public, mais en fait, elle recoupe bien d'autres choses, à la fois des archaïsmes du théâtre, le parler pour le corps extérieur, qui remonte à des temps immémoriaux, sans doute plus anciens que le travail de l'acteur. Et en même temps, elle propose aujourd'hui aux textes contemporains et aux comédiens une expérience tout à fait étonnante, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de leur travail d'interprète et de montrer au public un corps de personnage qui n'est pas son propre corps à soi, mais qui est tout autre chose, un pantin, une effigie, un objet, un morceau de matériau, un morceau d'espace, donc c'est aller jusqu'au bout de ce travail d'interprète, de parler pour un personnage sans faire semblant d'être le personnage.
François Lazaro, vous avez été choisi cette année, donc pour la première édition de ces rencontres, comme directeur artistique. Et là, quel a été votre objectif? Dans quel sens vous avez travaillé?
Alors, l'idée de Théma, donc, est de confier tous les 2 ans environ la programmation de ces rencontres nationales à un directeur artistique différent, à un créateur reconnu pour la trace qu'il met en place, et en lui demandant non pas de programmer tout ce qui se fait de plus beau, ou de plus tendance, ou de plus mode en marionnette, on va dire dans l'espace d'un théâtre autrement, mais au contraire de tout resserrer autour d'une tendance très précise. Et donc moi j'ai choisi les écritures vivantes, les auteurs vivants aujourd'hui, les auteurs dramatiques vivants, qui a priori travaillent pour le théâtre et non pas pour la marionnette, et les compagnies qui travaillent autour de ce théâtre autrement. Donc c'est cette confrontation-là que je voulais mettre en place.
Parce qu'en général, le répertoire de ce théâtre de marionnettes, il vient d'où?
Alors, la marionnette n'a pas un répertoire, mais de multiples répertoires qui viennent de plusieurs traditions, de traditions foraines, de traditions populaires, de traditions qui touchent aussi les premiers conteurs, diseurs d'épopées. Mais aujourd'hui aussi, la marionnette est en train de se forger un autre répertoire avec les écritures des auteurs vivants. C'est-à-dire que la marionnette travaille beaucoup autour des matériaux. Elle est connue ces dernières années, on va dire dans les années 80-90, pour avoir fait d'importantes conquêtes scénographiques, pour travailler sur l'image, pour travailler sur la plastique. Mais l'idée centrale, c'est de travailler sur un matériau brut. Et la langue, telle que nous la propose Beckett, Kerman, Novarina, sont des matériaux bruts. Et ça passionne tout à fait les marionnettistes. Et on peut faire entendre ces langues autrement qu'avec le corps d'un comédien. Donc c'est ce travail-là qui est passionnant, d'une autre écoute du théâtre.
Alors, vous avez choisi 12 compagnies, je crois,
Voilà.
et vous avez choisi aussi les auteurs. Vous avez mis en contact des auteurs avec des compagnies, non?
Non,
C'est voyant.
ça c'est quelque chose qui est fait depuis 3 ans en complicité avec la Chartreuse, où on invite des compagnies à rencontrer des auteurs qui sont proposés par le CNES. Et on travaille en atelier pendant 3 jours, ils se rencontrent. Et puis après, il y a un travail de 15 jours en atelier qui se fait au mois d'avril. Donc il y a eu 3 éditions de cette opération, et il y a beaucoup de spectacles qui sont nés à la suite de cela. Et voilà.
Voilà, il se passe en ce moment une importante mouvance. On va parler d'une double mouvance, une mouvance des auteurs vers la marionnette, parce qu'ils rencontrent là des hypothèses de représentation tout à fait différentes du travail avec les comédiens, avec le corps des comédiens. Tout à coup, le personnage peut voler, s'enfuir, se multiplier à 100 ou 150 exemplaires. Les écritures qui justement proposent 100, 200, 300 personnages comme ça, ou des voix dans la voix des personnages dans les personnages, trouvent des hypothèses de montage tout à fait passionnantes, permettent une autre écoute. Et en même temps, il y a un mouvement des comédiens pour découvrir cette autre manière de pratiquer le théâtre, ou cette manière complémentaire, on va dire, hein, puisque ce qui est important, en fin de compte, ce n'est pas tant la marionnette, c'est vraiment le théâtre, c'est nos représentations du monde, c'est donner la parole à un poète pour nous donner une image du monde. Et de la même manière que les comédiens ont visité avec passion le catacali, le nœud, le masque, le clown, la comédia dell'arte, aujourd'hui il leur semble qu'ils trouvent dans la marionnette, dans cette coupure justement sur le plateau face au public entre eux, leur personne et le personnage, dans cette coupure avouée très théâtrale, une source de travail très importante pour leur travail d'interprète.
Et François Lazaro, vous présentez un spectacle, puisque vous êtes directeur de la compagnie Classique, et vous présentez un spectacle dans le cadre de ces rencontres, en collaboration d'ailleurs avec un autre théâtre, le théâtre Banja Luka.
Voilà.
Et
Alors
le
c'est
titre, c'est Paroles mortes de lettres de Pologne, c'est ça?
Parole morte ou lettre de
Ou
Pologne.
lettres de
Ouais.
Pologne, Paroles mortes ou lettres de Pologne. Alors, j'aime beaucoup chacune de ces pièces présentées a des sous-titres très évocateurs. Là, c'est comédie-ballet pour 7 personnages, marionnettes et prothèses.
Oui. L'idée centrale de ce travail, c'est l'impossibilité de communiquer, c'est peut-être l'Europe aujourd'hui, c'est l'idée d'un monde où tout le monde veut parler, où tout le monde aurait la solution, mais où personne n'écoute personne. Donc effectivement, on se passe les uns à côté des autres. Et on a l'impression d'un monde de prothèses, c'est-à-dire avec le fax, le téléphone, le web, comme ça. Tous ces outils qui nous servent à communiquer sont en fait en même temps comme des prothèses. Le principe de la prothèse, c'est qu'elle permet le mouvement. Quand j'ai plus de jambes, je peux à nouveau marcher, mais en même temps, c'est le rappel permanent que cette partie-là n'existe plus.
D'un manque.
Ouais, voilà. Quand je suis au téléphone, la seule chose qui est primordiale, c'est que cette personne à qui je parle n'est pas là. Donc tout ça est très prothétique comme communication. Et en plus, avec l'Europe qui est en train de se former, cette sorte de surdité où chacun essaye de dire moi, 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 c'était très intéressant de montrer sept personnages qui ne savent plus répondre à l'auteur présent en salle et qui tout à coup se lancent dans une course folle pour expliquer absolument ce que c'est que le monde, ce que c'est que la bonne solution. Et donc on travaille sur une langue qui s'appelle l'Eurofrancopole Plus, qui est faite en fait de marques. Credit Card, Benetton, moi je suis très Wrangler. Aujourd'hui, quand on écoute les gens, on a l'impression qu'ils se résument à ce qu'ils portent sur eux. Moi, vous savez, moi je suis vraiment jeans, mais Wrangler avant tout. Hein. Un peu Benetton de temps en temps. Et donc, alors, les personnages s'expriment par nom de marque, par prénom, par nom de médicaments, aspirine, amidopirine, endopirine, etc. Et c'est compréhensible par tout le monde, ça. C'est une langue internationale. Que les comédiens disent avec tous les accents du monde, américains, anglais, allemands, polonais, suisses, etc. Et donc c'est une sorte de jargon européen, mondial presque. C'était cette tentative de faire un spectacle avec deux compagnies, donc un théâtre qui autrefois était un théâtre national polonais, qui est aujourd'hui un théâtre de la ville de Bielsko-Biała, le théâtre Banja Luka et ma propre compagnie, ma propre équipe, de confronter deux cultures différentes, deux manières d'aborder le théâtre différent, et de travailler ensemble pour essayer d'extraire une sorte de caricature du monde de la communication aujourd'hui.
Merci François Lazaro, merci Sylvie Boyon. Pour les rencontres, première rencontre nationale de la marionnette, c'est à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, et c'est jusqu'au 29 juillet. Merci.
Merci.
Au revoir.
És mindezt úgy, hogy évről évre 15%-ra emelkedik a felderíthetetlen bűncselekmények száma. A tavalyi évben 100 bűnesetből átlagban mindössze 20 esetben végződött sikerül a nyomozás, ami ugye azt jelenti, hogy 10-ből 8 megúszta. Hölgyeim és uraim! 10-ből
hogy megerőszakoltam azt a nőt.
Nagyon bánom, hogy
ledaráltam
az éjszakai portát. Két modellt és egy napapét emberből elmondtam be az irodában. Én most a kanibalizmus bűnét, nagyon sok embert megettem.
Elle écrivait des romans, des récits, des nouvelles. C'est vrai qu'elle ne me les a jamais montrés. Elle me les cachait. Elle jouait de la musique. Classique, sérieuse. Ma fille, c'est une enfant en or. C'était. Seulement maintenant, la voilà accro d'astrologie. Elle dessinait aussi. Il avait des amis, des Allemands de Dresde, tous les deux ingénieurs, mais ils s'y connaissaient en beaux-arts. Eh ben, ils disaient génial, génial, génial.
Sergueï et toi, vous voulez tout le temps les 33 bonheurs à la fois. Pop, pop, pop. Milka, faites-moi un peu de fric.
Tatiana, Vanilornet, arrivez, notre Tatiana, notre Tatiana.